Il y a quelques dizaines d'années, ici en Israël, il y avait la demi-finale du match de football entre la Grèce et Israël. Et en effet, Israël a gagné 1-0. Alors, Rav Shalom Shvadron, pour ceux qui le connaissent, le Magid de Jérusalem. Alors, Rav Shvadron était dans un taxi à Jérusalem et il y avait un bouchon. Il demande au chauffeur, qu'est-ce qui se passe? Le chauffeur lui dit, comment tu ne sais pas, Kvod Rav? On a gagné contre la Grèce 1-0. Le Rav lui dit, non, je crois que tu t'es trompé. Israël a perdu contre la Grèce 2-0. Je lui dis, Kvod Rav, en matière de Torah, donnez-moi un cours, je suis prêt à écouter. Mais en matière de football, je peux moi vous donner des cours, je sais de quoi je parle. On a gagné 1-0 contre la Grèce. Le Rav Shvadron lui dit, je vais t'expliquer quelle est ma kavana. Il est vrai qu'on a gagné le match 1-0, c'est vrai. La victoire de la Grèce contre nous, eh bien, c'est précisément de nous faire participer à ces matchs de football. On peut faire du football ou du basket ou un autre sport pour sa santé, pour se défouler, en effet. Mais lorsque ça devient une finalité de la vie, un but essentiel dans notre vie, et la preuve, n'est-ce pas, c'est que les grands footballeurs, eh bien, c'est leur vie. S'ils ont gagné le match, ils sont contents pendant des semaines et des mois. S'ils l'ont raté, s'ils l'ont échoué, eh bien, ils sont brisés, déprimés pendant des semaines. C'est vraiment leur survie, leur motivation de vivre. On en fait une idolâtrie. Là, il y a un problème. C'est la Gemara dit, lorsqu'on voit un Chacham de Chachmé Israël, un grand érudit en Torah, on doit faire une bracha, Shechalak Mechochmato Lireav. On dit, on remercie Hachem, pas qu'il a partagé de sa Chochma à ceux qui le craignent. Et lorsqu'on voit un grand scientifique, un grand homme scientifique, parmi les Goïm, et bien on fait la bracha, Shenatan Mechochmato Lebasar Vadam. Hachem a donné une partie de sa sagesse, sa science aux êtres humains. Et la question est posée, si un Ben Israël, un juif, c'est un grand scientifique, est-ce qu'on ferait pour lui cette bracha ou pas? Alors pour la Torah, n'est-ce pas, on dit Chalak me chochmato lirav. Pour la science, pour un non-juif, eh bien on dira Shenatan me chochmato lebasavadam. Alors quelqu'un qui est Ben Israël, est-ce qu'on ferait cette bracha ou pas lorsque c'est un grand scientifique? La réponse par les poskim est non. Pourquoi? Parce que bon, si la science, en effet, elle est vraie, elle est reconnue, il y a 7 grandes sciences qui sont reconnues par la Torah, et on dit « Chochma bagoim ta'amin ». En effet, ces sciences sont vraies, sont prouvées, elles sont précises, c'est vrai. Mais cependant, pour nous, s'affairer, faire une finalité de notre vie, de cette science, c'est dommage. C'est vrai, c'est prouvé, c'est la science d'Hachem. Le Gonvina nous dit que ces sciences-là peuvent nous aider à comprendre la Torah. Mais la finalité de notre vie, c'est plutôt la Torah et les mitzvot. Lorsque on va faire de cette science-là une finalité, un but, eh bien, on a dérapé. Et c'est pourquoi il n'y a pas lieu de faire de bracha pour un juif qui est un grand scientifique. Alors, pas aussi pour le sport. Le sport, eh bien, en effet, c'est excellent pour se défouler, pour être en bonne santé. Mais lorsqu'on en fait une finalité de la vie, là, il y a un problème. Lorsque l'Empire grec nous a influencés à participer aux matchs de football, à l'Eurovision, aux Jeux Olympiques, là, il y a un problème. Ben, la preuve, l'Eurovision, je crois que c'était une trentaine d'années, on avait gagné deux fois, deux années consécutives. Je me rappelle la première fois, le lendemain de cette victoire. Alors, l'Eurovision s'est passé le soir du CEDER, Leila CEDER. Imaginez-vous un peu, je me rappelle, j'étais à la synagogue, mon père est rabbin de synagogue, quelqu'un vient et nous raconte avant la tfila, oui j'ai enregistré le chant, n'est-ce pas, d'Israël, avant de commencer le seder, et après j'ai fait le seder, imaginez un peu. Alors imaginez aussi, n'est-ce pas, des Israéliens qui quittent Israël pour passer le soir du seder en Europe, pour participer à l'Eurovision. C'est la preuve qu'on a dérapé, qu'on en a fait, n'est-ce pas, une idolâtrie, un but en soi. C'est plus important que notre Géoula réelle. On a remplacé la Géoula de Pessah par en effet cette Géoula imaginaire de l'Eurovision, par cette victoire imaginaire, que ce soit l'Eurovision, les Jeux Olympiques ou le match de foot. Ce que dit Laurent Bochhoeffer, la Grèce a gagné contre nous. Le chauffeur lui dit, Kvod Harav, Kol HaKavod, en effet, vous avez raison. Mais pourquoi vous m'avez dit 2-0? La Grèce a gagné 1-0. Pourquoi 2-0? Le Rav lui dit, je vais te dire pourquoi 2-0. Il y a deux victoires de la Grèce contre nous. Première victoire, de nous faire participer à la finale de football. Seconde victoire, de nous laisser gagner contre la Grèce 1-0. C'est dit le Midrash. Si tu quittes la yeshiva pour faire du business, lorsque ça ne marche pas, eh bien c'est la plus grande réussite que tu peux avoir. Parce que Hachem, il t'aime, il veut te renvoyer encore une fois au Beit HaMidrash. Je ne dis pas qu'on ne peut jamais travailler, mais dans certains cas, l'échec, c'est la réussite. Et la réussite, c'est l'échec. C'est dans notre système de valeurs, il faut bien comprendre que l'échec et la réussite, c'est une notion très relative, très aléatoire. Ça dépend de quoi? Ça dépend de ton système de valeurs. Quand tu dis à quelqu'un, tu proposes à quelqu'un, viens, on fait telle chose. Il te dit, j'ai pas le temps. Ça veut dire quoi? Je n'ai pas le temps. Avoir le temps ou pas, le temps, il est là. Ça veut dire quoi? Tu l'as ou tu l'as pas. J'ai pas le temps, ça veut dire que ce que tu me proposes, c'est moins important que ce que j'ai à faire. J'ai quelque chose qui est prioritaire par rapport à ce que tu me proposes qui est secondaire. Quand je te propose un cours de Torah ou alors un match ou un film, eh bien chacun prend sa décision et donc il n'a pas le temps pour le cours de Torah ou il n'a pas le temps pour le match ou pour le film, eh bien tu as ici déclaré quel est ton système de valeurs, quelles sont tes priorités. Dans la vie de tous les jours, sans le déclarer, eh bien notre action, notre parole est en train de déclarer, de montrer quel est notre système de valeurs, qu'est-ce qui est pour nous prioritaire, qu'est-ce qui est pour nous secondaire. Si on participe à l'Eurovision sur le compte du Léla Seder, alors même si en temps normal on ferait Léla Seder, mais on a déclaré que l'Eurovision c'est plus important que le soir du Seder. C'est pourquoi l'échec ou la victoire, c'est pas ce que nous on entend comme échec ou alors comme réussite. Ça dépend de ton système de valeurs. Alors dit le Midrash, des fois tu entreprends une affaire, un travail, ça n'a pas marché. Tu es déprimé parce que tu as échoué dans ton affaire. C'est pas sûr que tu as raison. Peut-être que cet échec-là est une réussite. Par exemple, même sans parler en termes de Torah, tu vas entamer un travail, mais qui va te demander de voyager dans le monde entier la majorité de l'année. En fin de compte, tu n'as pas été engagé, on ne t'a pas pris. La personne, elle est déprimée. Pourquoi tu es déprimé? Peut-être c'est une grande réussite. Au contraire, Hachem t'a sauvé la vie, parce que ça va être sur le compte de ta femme, de tes enfants, sur le compte de ta santé, ça peut être dangereux pour toi, etc. On ne peut pas savoir quelle est réellement la réussite ou l'échec. Le fait d'avoir réussi, c'est peut-être un grand échec, parce que tu vas t'engager dans une affaire qui est très mauvaise à longue échéance. Tu ne t'en rends pas compte maintenant. Le fait d'avoir échoué, c'est la grande réussite. C'est un système de valeurs qui est différent du nôtre. Ce que dit le Rav au chauffeur, eh bien là aussi, on a gagné contre la Grèce 1-0, eh bien cette victoire, c'est un échec. La première victoire de la Grèce contre nous, c'est de participer à ce match-là, d'en faire une finalité dans notre vie. Fais du football ou du basket pour ta santé, te défouler, c'est impeccable. Mais quand, n'est-ce pas, tu as participé au final, tu en as fait une finalité, tu vas dépenser des millions pour cela. Tu vas, n'est-ce pas, emballer des dizaines, des centaines de milliers de personnes après toi, des supporters, qui vont aussi dépenser des millions, on a dérapé. On a fait, n'est-ce pas, de ces matchs-là, des Jeux Olympiques, de l'Eurovision, eh bien une finalité, un but essentiel de la vie, c'est pas ce que Hachem nous demande. Et la seconde victoire de la Grèce, eh bien, c'est le fait qu'elle nous a laissé gagner 1-0. C'est-à-dire que le Satan au ciel, eh bien des fois, n'est-ce pas, il va travailler, il va investir beaucoup de force pour te faire gagner la partie. Lorsque tu as gagné, eh bien, c'est un échec, un grand échec. C'est pourquoi on a perdu contre la Grèce 2-0. C'est ce qu'a dit le Rav à ce chauffeur, Rabbi Shalom Fladron. Top. Alors en fait, cet empire grec d'il y a 2000 ans, eh bien, on le retrouve encore de nos jours. De nos jours, ce n'est plus la Grèce, mais c'est le monde occidental, avec tout ce qu'il nous offre, avec tous les médias, la technologie, les matchs aussi, Jeux Olympiques, Eurovision, etc. De nos jours, ça a pris encore plus d'ampleur. C'est-à-dire qu'il y a un système de valeurs que le monde occidental, eh bien, véhicule et influence le monde en général. Et ce qu'on nous demande, c'est de savoir marquer un temps mort, prendre du recul, pour réfléchir, méditer à chaque élément, à chaque proposition. Quelle est sa valeur réelle? Quel est notre système de valeurs par rapport à ce match-là, par rapport à cette affaire, par rapport à ce cours, par rapport à ce jeu qu'on te propose? Alors, lorsque la fête de Hanouka arrive, Hanouka, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Hanouka, ça s'est passé il y a environ plus de 2000 ans, 2200 ans environ. C'était au milieu de Baït Sheni, c'est-à-dire environ 200 ans, n'est-ce pas, après la construction du second temple et avant la destruction de ce temple. Le temple, il a duré 420 ans. Alors, vers le milieu environ, c'était là la fête de Hanouka. Et l'Empire grec, eh bien, dominait plus ou moins Amisraël. D'ailleurs, c'est raconté que même les Kohanim, le Kohen Gadol, eh bien, l'Empire grec avait une emprise sur eux. C'est-à-dire que les Kohanim, n'est-ce pas, étaient choisis par l'Empire grec à une certaine époque. Et c'est pourquoi d'ailleurs que les Kohanim, eh bien, ont changé de Kohen Gadol chaque année. Pourquoi? Parce qu'on sait que le Kohen Gadol, il rentrait une fois dans l'année, dans le Kodesh Kodashim, Yom HaKippurim, pendant quelques instants. Et s'il avait une mauvaise pensée, par hasard, ne serait-ce qu'une seconde, eh bien, il était mort foudroyé. D'ailleurs, on l'attache avec une corde pour le tirer éventuellement, puisque personne ne pouvait rentrer dans ce Kodesh à Kodeshim. C'est pourquoi les Kohanim qui n'étaient pas à la hauteur, qui allaient acheter avec de l'argent chez l'Empire grec, la Kimunak de là, eh bien, mouraient chaque année. Et chacun était sûr et certain de pouvoir maîtriser sa pensée pendant quelques instants, ils n'arrivaient pas. Auparavant, Shimon HaTzadik, qui était lui Kohen Gadol pendant quelques dizaines d'années, eh bien, en effet, il a tenu bon pendant des dizaines d'années. Mais ensuite, lorsque l'Empire grec a pris le dessus, les Kohanim mouraient chaque année, il y en a eu, n'est-ce pas, en effet, des centaines pendant le Baït Sheni. Et l'Empire grec, donc, avait l'emprise même sur le Beth Amikdash. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont influencé, assimilé à Israël par leur science et par leur philosophie. Il faut savoir et se rappeler que la Grèce de l'époque, c'était la puissance mondiale numéro 1. Pourquoi? Parce que c'est eux, n'est-ce pas, qui avaient à l'époque fait les plus grandes découvertes scientifiques et aussi les plus grands philosophes leur appartenaient, comme Socrate, Platon, Aristote et encore d'autres. Et les Bnei Israël s'assimilaient par ce mouvement, n'est-ce pas, par cette élévation plus ou moins intellectuelle et scientifique de l'Empire grec. Ils étaient impressionnés par cela. On considère la Torah déjà comme plus ou moins primitive, comme certains considèrent aussi de nos jours, malheureusement. Et parce qu'en effet, c'était la science et la philosophie grecque qui était plus importante. Top. Et les Israël se sont petit à petit assimilés. Et le Beth Amikdash était délaissé. Les Korbanot, qui représentent de nos jours la Tfila, ainsi qu'encore d'autres mitzvot, étaient délaissés. Et c'est pourquoi, n'est-ce pas, c'est pourquoi il y avait beaucoup de décrets des Grecs contre nous. Pourquoi? Parce qu'on sait bien que les décrets des Goïms, ça provient de nous. C'est-à-dire que lorsqu'on est à un niveau spirituel et moral suffisamment élevé, personne ne peut rien contre nous. Comme on a lu il y a quelques semaines, « Akol kol Yaakov, va'edem et de'esav »« Bisman sha'akol kol Yaakov, en a'edem et de'esav » Lorsque les mains de Yaakov, elles sont renforcées. Alors on a deux colottes, « Kol kol, kol kol Yaakov, kol atora ve kol atfila » Lorsqu'on entend, n'est-ce pas, la voix de la Torah et de la Tfila de façon très renforcée, eh bien, Esav n'a aucune emprise sur nous. Au contraire, lorsqu'il y a un rifion, un relâchement, eh bien là, Amalek intervient. Là, n'est-ce pas, l'Empire grec intervient avec ses décrets. Les décrets étaient sur Chodesh, Shabbat, Mila, Talmud Torah, encore d'autres décrets. Pourquoi? Parce qu'auparavant, on s'est relâché, n'est-ce pas, par rapport à ces mitzvot. Et c'est là où l'Empire grec, eh bien, a de l'emprise, même sur le Beth Amikdash. Pourquoi? Si on se met à considérer la science et la philosophie grecque comme un système de valeurs qui est important, peut-être plus que la Torah de Shalom, Eh bien là, on a délaissé, méprisé la Torah et son étude des mitzvot, eh bien ça donne plus de force à l'Empire grec, qui a ensuite, n'est-ce pas, la maîtrise, même sur le Beth Amikdash, même pour choisir les Kohanim Gdolim, eh bien c'était les Grecs qui le faisaient. Alors ce qui se passe de nos jours, n'est-ce pas, de nos jours, l'Empire grec, c'est autre chose, mais c'est encore, n'est-ce pas, la science et la technologie avec tous les médias que le monde nous offre. C'est-à-dire que si on va être impressionné par tout ce qui se passe, par toutes les grandes découvertes scientifiques, par toutes les grandes philosophies, par toutes, n'est-ce pas, les grandes psychologies, par rapport à la Torah, en considérant que la Torah, ça date du Moyen-Âge, elle est plus tellement adaptée à nos jours, eh bien, encore une fois, on est en train de s'assimiler, et c'est la victoire de la Grèce, c'est-à-dire de l'Empire occidental, contre nous. Alors, je précise, je ne viens pas ici mépriser ni bannir aucune science, aucune philosophie, aucune psychologie. Mais encore une fois, la question, c'est que est-ce que c'est un accessoire ou alors c'est un but, c'est une finalité dans la vie? On peut faire du sport en tant qu'accessoire. On peut utiliser la science, mais en tant qu'accessoire. Alors que la finalité, le but de notre vie, eh bien, c'est en effet, ça reste toujours la Torah et mitzvot. Et la preuve, le test va être lorsque les deux vont être confrontés, comme l'Eurovision et le soir du CDR. Quelle est ta préférence quand tu as, n'est-ce pas, un cours de Torah et un match? Quelle est ta préférence? Qu'est-ce qui va l'emporter? C'est là, n'est-ce pas, le test réel. Quel est ton système de valeurs réelles? Alors quand Hanouka arrive, disent nos sages, nous devons nos sages, qu'en fait, Hanouka, il se répète chaque année. On dit dans la bracha, Shasanissim, la votez-nous, Baimemhem, Bazman, Azé. Hachem a fait des miracles à nos ancêtres dans ces jours-ci, dans ce temps-là. Bazman Azé, pour dire que ces miracles vont encore une fois se produire, se produisent encore une fois. C'est-à-dire que, comme nos ancêtres, eh bien, ont su se révolter contre l'Empire grec. Ils sont révoltés contre l'assimilation des Juifs par rapport à cette science et cette philosophie. Alors, pour ne citer qu'un exemple, une fois, n'est-ce pas, un des dirigeants grecs a pris un porc et l'a amené à côté de Misbéach. Il a réuni les bénis Israël et a demandé que l'un d'eux le sacrifie, l'amène sur le Misbéach. Et a menacé, n'est-ce pas, tout le monde de mort, et a aussi promis une récompense extraordinaire à celui, eh bien, qui oserait sacrifier ce porc sur le Misbéach. Bon, évidemment, tout le monde avait peur de le faire, ne savait pas quoi faire, jusqu'à ce que, vers le fond de la foule, il y avait un vieil homme qui s'appelait Matatyahu Kohen Gadol, le grand tzaddik, le père, n'est-ce pas, des grands dirigeants et commandants de l'armée israélienne de Bnei Israël. Eh bien, il a dit, moi je suis prêt à le faire. J'en étais étonné, parce que c'était lui le grand dirigeant spirituel de tout Israël à l'époque, Matatyahu Kohen Gadol. Il s'est approché et il a pris tout d'un coup l'épée de ce commandant grec et l'a tué sur place. Et a ensuite organisé la révolte contre les Grecs. À partir de cela, il leur a dit que tout cela arrive parce qu'en effet on s'assimile à l'Empire grec et on n'est pas dérangé par le fait que les sacrifices ont été déjà annulés depuis des mois, etc. Il leur fait vraiment une dracha, une tzirat moussa extraordinaire. Et depuis, ils se sont révoltés contre l'Empire grec. D'ailleurs, c'est raconté qu'il y avait des miracles extraordinaires qu'on ne peut pas imaginer. Ils étaient, n'est-ce pas, quelques dizaines de personnes contre des millions. Il y avait des miracles qui étaient bien plus grands que le miracle de la fiole. Bon, ça s'est passé à l'époque. Alors, ce qui se passe, c'est que de nos jours, lorsque Hanouka arrive, qu'est-ce qu'on nous demande? C'est quoi la préparation à Hanouka? Qu'est-ce qu'on peut réaliser en nous pendant ces jours de Hanouka? Ce qu'on peut réaliser, eh bien, savoir réellement quel est le système de valeurs réelles. Quelle est notre identité juive? Qu'est-ce qui est important pour nous? Quelle importance, n'est-ce pas, à la Torah et les mitzvot et le monde extérieur? Est-ce qu'on est impressionné par n'importe quelle découverte scientifique, n'importe quelle philosophie ou psychologie, plus que la Torah, ou alors le contraire? Là, c'est à vérifier et c'est à prendre parti réellement quelle est notre position par rapport à la Torah et les mitzvot. C'est ce qu'Hachem nous demande, n'est-ce pas, lorsque la fête de Hanouka arrive. Et en fait, comment est-ce qu'on peut y arriver? Quel est le réel remède? Alors, nos sages nous l'ont dévoilé. Qu'est-ce qui se passe à Hanouka? Hanouka, les Grecs, par rapport à ce qu'ils ont fait, ils avaient aussi rendu impures toutes les huiles. Vetim ou kol lashmanim. Toutes les huiles étaient impures. Alors l'huile, vous savez que dans la Torah, l'huile, c'est symbole de la chokhma, de la sagesse, notamment de la sagesse de la Torah. Chaque fois qu'on devait nommer un Kohen ou alors un roi, on devait loindre d'une certaine huile d'olive très spéciale. La Gemara dit, et c'est vrai jusqu'à nos jours, que consommer de l'huile d'olive de façon régulière, eh bien ça donne un surplus de chokhma, ça donne aussi une bonne mémoire par rapport à la Torah. Lorsque disent nos sages que toutes les huiles ont été souillées, pourquoi c'est arrivé? Pourquoi Hachem a laissé les Grecs souiller les huiles? Parce que, comme on l'a dit auparavant, tout ce qui se passe, eh bien, ça dépend de notre niveau spirituel. Lorsqu'on n'est pas au niveau spirituel adéquat, eh bien, automatiquement, Esav, l'Empire grec, prend le dessus, prend la maîtrise sur nous. Si les huiles ont été souillées, ça veut dire que notre esprit, notre chorma, a été aussi souillé. Notre idéologie, notre façon de réfléchir et de penser a été souillée par le monde occidental, par la technologie, par la philosophie et la psychologie, et même par la science, lorsqu'on va donner plus d'importance à cette science que notre Torah. Notre esprit a été souillé. Vetim ou kolashmanim. C'est ce qu'Hachem voulait dire au Béni Israël. Attention, il y a un problème dans votre idéologie, votre façon de réfléchir. Quel est votre système de valeurs? Qu'est-ce qui est plus important? Qu'est-ce qui est secondaire? Mais cependant, Matsu par echad munar bechotamo shel kohen gadol, par tahor, ils ont trouvé une fiole d'huile qui était pure, qui était scellée, tamponnée par le sceau du kohen gadol, et c'était sûr et certain qu'elle n'a pas été touchée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans tous les cas, malgré l'exil, malgré la avérot, eh bien chacun d'entre nous possède en lui une fiole d'huile qui est pure. On l'a dit plusieurs fois, comme dit le Nefesh HaChaim, c'est que notre Neshama, elle est toujours Kedosha. La faute, la Avera, l'assimilation, va affecter le corps humain, la partie qui s'appelle Nefesh, la partie qui s'appelle Ruach, mais jamais la Neshama. La Neshama reste toujours intacte. La Neshama, c'est la troisième partie la plus élevée de notre âme. Elle n'est jamais souillée par aucune idéologie, par aucune faute. Qu'on le veuille ou non, elle reste intacte. Elle est toujours attachée à Hachem. Est-ce que cette fiole d'huile représente? Alors, ils ont trouvé cette huile. C'est aussi un symbole qu'Hachem nous dit. Il est vrai que notre esprit a été souillé par cette idéologie du monde grec. Mais cependant, il y a encore une fiole d'huile qui est restée intacte. Et à partir de cette fiole d'huile, eh bien, ils ont allumé, n'est-ce pas, le Beth Amikdash, non pas pendant une journée, mais pendant plus d'une semaine, pendant 8 jours. C'est-à-dire que nous aussi, on peut toute l'année, et encore plus pendant Hanouka, on peut à partir de cette neshama qui est en général anesthésiée et endormie, on peut l'éveiller, on peut la susciter, la motiver, pour ensuite à partir d'elle, n'est-ce pas, éclairer, rayonner tout notre être, notre ruach nefesh et aussi notre corps. C'est-à-dire qu'en fait, la neshama, elle est spirituelle, elle provient d'un monde céleste et divin. En général, elle est anesthésiée. Et c'est pourquoi, n'est-ce pas, c'est-à-dire que pourquoi elle est anesthésiée? Parce que lorsqu'on est à la merci du monde, de la technologie, lorsqu'on est assimilé, lorsqu'on fait des avérotes, ces avérotes, eh bien, vont affecter notre nefesh et ruach. Automatiquement, nos forces instinctives vont prendre le dessus. Et la neshama est anesthésiée et endormie. On peut la réveiller, la susciter. Comment la réveiller? Par toutes les mitzvot, par la tefila, par la Torah. Cependant, quand Hanouka arrive, Hanouka, ce sont des jours très spéciaux. Des jours dans lesquels on peut servir Hachem les malaminateva de l'estatemet. On peut se surpasser, se maîtriser de façon surnaturelle. Hachem produit des miracles, pas les miracles qu'il y avait dans le temps. Mais on a d'autres miracles. Quels sont les miracles? Eh bien, qu'on peut se surpasser dans l'étude de la Torah, dans la tefila, dans l'accomplissement des mitzvot. C'est-à-dire que, bien souvent, on a des capacités, mais qui sont anesthésiées. La preuve, un jour de Kippour, on peut pendant 24 heures se surpasser. On arrive à réaliser le maximum de notre personnalité. ce qu'on n'arriverait pas à réaliser en temps normal. Pourquoi ? Parce que c'est Kippour. Donc tu vois la preuve que tu peux le faire. Il suffit d'être motivé par une journée, par une raison qui s'appelle Yom HaKippourim. En général, on peut aussi le faire. Alors Hanouka, ce sont aussi 8 jours très spéciaux dans lesquels on peut, n'est-ce pas, se surpasser pour éveiller cette neshama qui est endormie. Et l'anesthésie, il faut la réveiller. Qu'elle prenne le dessus. Quel rayon, c'est la fiole d'huile qui peut, n'est-ce pas, brûler pendant une semaine entière. Elle peut brûler 8 fois plus, et elle aura encore brûlé encore plus, c'était nécessaire. Il faut bien comprendre ça, c'est qu'il fallait 8 jours pour amener de l'huile pure. Pourquoi ? Parce qu'il leur fallait une semaine de se purifier. Quand on touche un mort, il faut une semaine de purification. Et ensuite, une journée pour presser l'huile d'olive et l'amener. Au total, 8 jours. C'est pourquoi le miracle a duré 8 jours. S'il fallait 2 semaines pour l'huile d'olive, le miracle aurait continué 2 semaines. C'est-à-dire, Hachem te fait les miracles selon la nécessité, ce qui est nécessaire. Alors toi aussi, lorsque tu vas t'investir dans la Torah et la Tfila pendant 6 jours de Hanouka, Hachem va te donner les forces selon ta volonté, ta motivation, selon, n'est-ce pas, la volonté de vouloir élever, réveiller ta neshama qui est endormie, lorsque tu décides qu'elle prenne le dessus, et au contraire, que les forces corporelles et physiques vont être non pas brisées, refoulées, mais vont être dirigées par les forces de la neshama, de l'âme qui, elle, est spirituelle et divine. Cela, on peut le réaliser à Hanouka. Encore quelques remazim importants, nous avons à Hanouka. La Gemara dit, Masrat Shabbat, Soussi Nalacha, Ptilot, Ushmanim, She'en Madlikin Ben Shabbat, Madlikin Ben Bechanouka. C'est-à-dire que Shabbat, il nous faut certaines mèches et certaines huiles qui soient de très bonne qualité pour que la flamme brûle bien. Alors que pour Hanouka, ce n'est pas la peine. Hanouka, tu prends même des huiles et des mèches qui ne sont pas de bonne qualité, c'est permis aussi. C'est mieux évidemment de prendre une huile et une mèche de bonne qualité, c'est Idur Mitzvah, mais ce n'est pas impératif. Bon, il y a plusieurs raisons d'après la halakha. Al-Derech à Remez, disent les commentateurs, notamment le Sfatemet. Alors, Ptilav de Shmanim, les mèches et les huiles, c'est l'être humain. On peut comparer, n'est-ce pas, l'être humain, comme on a, lorsqu'on a une flamme. Alors, c'est quoi ? C'est un gobelet dans lequel on met de l'huile, et une mèche, on a la flamme. Alors, le gobelet, c'est notre corps. L'huile, c'est la partie de l'âme qui s'appelle Nefesh. La Ptila, c'est Ruach, et la flamme, c'est Neshama. Alors même, n'est-ce pas, ces Ptilot Ushmanim, ces âmes qui sont loin de la Torah, lorsque notre Nefesh et Ruach est affecté par les Averot, lorsqu'on est loin de la Torah, et on ne peut pas se rapprocher d'Hachem et de la Torah le Shabbat. Il y a des gens qui ne font pas le Shabbat, qui n'arrivent pas à s'élever spirituellement le Shabbat. Même quand on le fait, ce n'est pas toujours évident de s'élever spirituellement à un niveau gigantesque comme on peut le faire le Shabbat. Ce n'est pas toujours évident, il faut être au niveau. Mais Hanouka, on peut le faire. Hanouka, même ces mèches et ces huiles qui sont sous l'autre pour Shabbat, kshirot de Hanouka. Hanouka, disent les commentateurs, c'est plus facile de se rapprocher d'Hachem, bien plus que Shabbat. Même quelqu'un qui est loin de la Torah, qui est plein de Averot, il peut se rapprocher d'Hachem le jour de Hanouka. Il y avait une fois dans Israël ce qu'on appelle un Moser. Un Moser, c'est un dénonceur. C'était un juif qui allait dénoncer ses collègues juifs auprès du palais de justice. Évidemment, n'est-ce pas, pour des mensonges ou des vérités, il dénonçait constamment. C'était un grand rachat. Alors bon, c'était tellement grave et tellement supportable qu'ils sont allés raconter ça, la communauté, au Maharam Miloublin. Et lorsqu'ils lui ont présenté le nom de cette personne-là, bon, il avait une vision plus ou moins prophétique, il leur a dit, je ne sais pas ce que vous me racontez, je vois, je constate que son âme, elle rayonne dans les mondes célestes. Il s'est avéré ensuite qu'à cet instant où ils ont présenté le nom de ce rachat au Maharam, eh bien cet homme-là allumait Nerot Hanouka. Donc même quelqu'un loin de la Torah, un dénonceur, c'est une des plus grandes richoutes qu'il y a. Lorsqu'il va allumer Nerot Hanouka, eh bien son âme va rayonner dans les mondes célestes. Pourquoi ? Parce qu'on peut réaliser Hanouka même bien plus qu'un jour de Shabbat normal. Hanouka, si on l'allume bas, moins que dit Tfachim a priori. C'est écrit que l'Oyarda Shrina le Mata Masar Tfachim. La Shrina est toujours plus élevée que dit Tfachim. À Hanouka, la Shrina, elle descend plus bas que dit Tfachim. On allume très bas la Hanouka. C'est-à-dire que la Shrina, elle vient même si tu es très très bas, tu es exilé, ton âme est endormie, la shrina, elle vient t'élever, elle vient élever ton âme. La shrina, elle se baisse. On allume Hanouka le soir, quand il fait nuit. Même si tu es dans les ténèbres, dans l'obscurité, des fois on est dérangé, perturbé par une avéra qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser, par une mauvaise habitude qui nous dévore. On veut s'en débarrasser, on n'arrive pas. On prend la décision 5 fois, 50 fois, 200 fois, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. À Hanouka, c'est une occasion unique de réaliser cela, de sortir de l'obscurité, des ténèbres dans laquelle on se trouve. Parce que la shrina, elle se baisse plus bas que dit Fahim, elle vient t'élever. Même une âme qui est loin de la Torah, qui est pas saoule pour Shabbat, elle kshera le jour de Hanouka. Hanouka, on l'allume a priori du côté gauche, en face de la mezouza, au sein de la Kharemez. Le côté gauche, c'est symbole, n'est-ce pas, des forces de la rigueur, adin, tout ce qui est rigueur, tout ce qui est difficile, n'est-ce pas, à gérer. C'est-à-dire que Hanouka, même ce qui est difficile à gérer, même ce qui est très difficile, problématique, eh bien, on peut le gérer, on peut le résoudre pendant Hanouka. Parce que les miracles se produisent de façon cachée, évidemment, de façon dissimulée. Comme dit la bracha, chez Asanissim, lavotenu, bemhem bazman azé. Hachem, n'est-ce pas, nous fait des miracles, encore une fois, chaque année à Hanouka. Alors, les miracles, ils ne sont pas flagrants, mais ils sont cachés. Ils sont, n'est-ce pas, comme le miracle de la fiole d'huile. Bon, c'était flagrant, mais c'était, n'est-ce pas, dans un endroit qui était discret. Par aussi, on peut réaliser en nous des miracles extraordinaires de métamorphose pendant ces journées-là de Hanouka. Cependant, il faut être intelligent. Pourquoi? Parce que sachez que tout ce que je vous dis, eh bien, le Satan, il sait tout ça, et il sait mille fois plus que ça. Moi, je vous dis très très peu, le peu que je connais, mais n'est-ce pas, c'est dans les livres, il y a des secrets à n'en plus finir. On prend n'importe quelle petite mitzvah de la Torah, c'est des secrets, n'est-ce pas, dans Pshat, Drash, Remez, Sod, à n'en plus finir. Tu prends une mitzvah de la Torah, et tu dis là, des dizaines d'années, une centaine d'années, 15 heures par jour, c'est pas suffisant. Tu n'as pas terminé. Parce que la Torah, elle est infinie. Alors le Satan est au courant, n'est-ce pas, bien plus que nous, des secrets extraordinaires de Hanouka. C'est pourquoi il nous amène à Hanouka 36 perturbations. À commencer par les beignets, et à continuer par les messibot extraordinaires, excursions, et les vacances, etc., etc. Alors je ne dis pas manger des beignets, c'est bon à la brioute, pourquoi pas. Mais il faut être intelligent, Hanouka, de ne pas perdre le temps inutilement. Il faut s'investir dans la Torah, dans la Tfila. Beaucoup de personnes ont raconté qu'ils ont réussi à être métamorphosés par la fête de Hanouka. Alors c'est écrit en effet, le 24 qui se lève, donc c'est déjà ce soir, c'est un jour très particulier. Pourquoi? Parce que tout d'abord, les victoires essentielles dans la guerre se sont passées le 24 qui se lève. C'est d'ailleurs une des réponses, c'est que dans la question de Beit Yosef, pourquoi est-ce qu'on allume 7 jours, on devait allumer, pourquoi est-ce qu'on allume 8 jours? Le miracle s'est passé pendant 7 jours, puisqu'il y avait suffisamment d'huile pour qu'elle brûle une journée. Donc il y a un miracle pendant 7 jours. Alors bon, il y a beaucoup de réponses. Il y a de nos jours un livre avec 500 réponses à la question. Mais en fait, ce n'est pas 500 réponses différentes, il y a une centaine de réponses, parce qu'il y a là-bas tous les livres qu'il y a dans le monde entier là-dessus, et certaines réponses sont plus ou moins semblables et similaires. Mais au total, on a une bonne centaine de réponses à cette question. Une des réponses, c'est qu'on allume encore une journée pour marquer le coup pour les miracles de la guerre, qui eux se sont passés essentiellement le 24 qui se lève. Alors c'est un jour aussi qui est très important pour la préparation à Hanouka. Alors c'est quoi la préparation? Eh bien c'est se recueillir et réfléchir. Dans quel domaine nous sommes déficients? Que ce soit en Torah, en Tfila, en Mitzvot, en Tshuva, ou alors si on a un problème de caractère à gérer, une certaine avéra qu'on n'arrive pas à maîtriser, n'importe quel problème qui nous dérange, on se trouve dans l'obscurité, on se sent exilé par rapport à notre réelle identité dans ce domaine-là. Eh bien, Hanouka, c'est le moment où le travailler. C'est pourquoi c'est bien de le préparer auparavant et de se faire un programme pendant 8 jours de Hanouka pour exploiter le temps, surtout dans la Torah, surtout dans la Tfila, mais aussi toutes les mitzvot, les faire de façon différente que l'année en général. Savoir aussi se rappeler que l'allumage est très important. Il y avait des admourim qui se rendaient compte de ce qu'ils faisaient quand ils allumaient. Ils n'arrivaient pas à allumer. Ils étaient en train de trembler. Une fois, un admour, il est resté pendant 6 heures avec la flamme en main. Il n'arrivait pas à allumer. Il se rendait compte réellement qu'il est en train, n'est-ce pas, d'envoyer, eh bien, comme une bombe atomique, comme un projecteur spirituel et divin sur lui et sur le monde entier. Bon, alors il n'arrivait pas à allumer. Bon, c'est pas la peine, pas d'attendre 6 heures, allumer en quelques secondes, c'est pas ça. Mais pour prendre conscience quelle est l'importance de l'allumage. On ne fait qu'allumer une flamme, n'est-ce pas? Mais c'est important. On l'a dit plusieurs fois, c'est pas l'action qui va définir l'importance de ce que tu réalises. La preuve, tu peux appuyer sur un bouton et tu es quelqu'un qui est sur une chaise électrique. Tu peux bouger une manette et envoyer une bombe atomique sur un pays entier, Khalil Avras. Bien que tu aies fait un geste de quelques centimètres. Alors pas aussi, tu allumes une flamme, tu vois pas ce qui se passe. Mais cette flamme est reliée à ton âme. Ner Hashem Nishmat Adam. La flamme, n'est-ce pas? Eh bien, c'est le symbole de notre Neshama. Pourquoi on allume un Ner Neshama quand quelqu'un est décédé? Pour un Yorkshire. Pourquoi? C'est symbolique? Pas du tout. Parce que c'est écrit que cette flamme, elle va éveiller la Neshama de la personne défunte dans les mondes célestes. Grâce à cette flamme que tu allumes sur terre, eh bien, l'âme de la personne va s'élever encore plus dans les mondes célestes. Elle va rayonner au Gan Eden, au paradis, encore plus qu'auparavant. Tu es en train de réaliser par rapport à toi et par rapport au monde entier quelque chose d'extraordinaire, comme l'histoire avec le Maharam. Même quelqu'un qui est loin de la Torah, qui est plongé dans les graves averot, eh bien, son âme va rayonner lorsqu'il va allumer cette flamme. Se rappeler aussi que surtout la première demi-heure qui suit l'allumage est très important. Surtout ne pas perdre de temps. Alors, il faut s'investir dans la Torah ou dans la Tfila. Éventuellement, une autre mitzvah qui se présente à nous, ça peut aussi aller, mais a priori, rester dans la Torah, dans la Tfila, c'est aussi un moment qui est très propice pour la Tfila, n'est-ce pas, la demi-heure qui suit. On allume 36 nérotes au total, à part le Shamas, qui nous fait 44, on a 36 nérotes de 1 à 8, ça fait 36 flammes au total en Hanouka. Eh bien, ces 36 nérotes font aussi allusion aux 36 heures chez la Oraganouz. Hachem, il a créé, n'est-ce pas, une lumière divine, spirituelle, yéi or, c'est une lumière gigantesque, pas celle qu'on a, bien plus, mais cette lumière-là, ganazota betocha Torah, il a introduit, il l'a caché dans la Torah Kedusha. C'est une lumière divine spirituelle. Cette lumière-là, pendant Hanouka, eh bien, elle rayonne, elle rejaillit. On ne sait pas comment, n'est-ce pas de quelle façon, mais elle rayonne, c'est-à-dire que ces 36 flammes vont nous faire rejaillir ces 36 heures de cette lumière divine, elle a éclairé et rayonné dans le monde entier pendant 36 heures. Lorsqu'Hachem l'a créé, elle a rayonné 36 heures et ensuite Hachem, il l'a caché dans la Torah. Donc ces 36 heures-là, dans lesquelles eh bien, le monde a été éclairé par cette lumière divine et spirituelle, eh bien, elles vont encore une fois nous éclairer pendant Hanouka avec les 36 flammes. 36 flammes, c'est aussi un remès pour les 36 macertot du chasse. On a au total, n'est-ce pas, 36 traités de Gemara dans le chasse. C'est-à-dire que chaque flamme, eh bien, on peut aussi prier pour étudier, réviser, maîtriser, posséder, mémoriser une macerhet du chasse, pas chaque fois tous les soirs. C'est-à-dire qu'il y a aussi un parallèle entre ces 36 flammes et les 36 macertot du chasse. Et plus on va s'investir, plus on va renforcer la emouna, n'est-ce pas, dans cette lumière de Hanouka, plus on va mériter de Siyata Dishmaya, d'être divine extraordinaire. Et surtout pendant Hanouka, qu'en effet c'est une période miraculeuse, eh bien on peut dévoiler en nous eh bien, ces forces surnaturelles que Hachem nous a données. Batzlacha Rabba.